Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La semaine prochaine a lieu l'Assemblée Générale Annuelle de la Banque Africaine de Développement. Mais, chose extraordinaire, cette réunion n'a pas lieu cette année en Afrique. Le rendez-vous est fixé à Ahmedabad, la plus grande ville du Gujarat, état du nord-ouest de l'Inde. On se demandera bien sûr pourquoi au cours de cette émission, mais c'est aussi l'occasion de parler de l'Inde, nation d'1,2 milliard ou 300 millions d'habitants, on ne sait pas exactement. On dit souvent que ce pays n'a pas su profiter de la mondialisation comme l'a fait la Chine. Pourtant, entre 2005 et 2015, l'Inde a aussi enregistré un taux de croissance très fort, 11% de moyenne. Cela s'est fait, disons, plus discrètement. Alors aujourd'hui, comme les cadences chinoises ont tendance à baisser en rythme, beaucoup se demandent si l'économie indienne peut devenir la nouvelle locomotive de l'économie mondiale. La question se pose d'autant plus que depuis 2014, le Premier ministre Narendra Modi tente de moderniser l'économie de son pays. L'une des manifestations les plus spectaculaires de cette tentative, c'est l'annonce faite le 8 novembre 2016 par le chef du gouvernement lui-même.
Mes frères et sœurs, pour se défaire de l'emprise de la corruption et de l'argent noir, nous avons décidé que les billets de 500 et 1000 roupies ne seront plus valides à partir de ce 8 novembre 2016 à minuit.
Cette annonce a provoqué de nombreuses manifestations.
Les gens perdent un temps fou à faire la queue devant les banques chaque jour. Les commerces ne fonctionnent pas car personne ne veut dépenser son argent. Tout le monde essaye de retirer l'argent et rien ne marche.
Alors, cette démonétisation, comme on a qualifié cette mesure, a-t-elle permis à l'économie indienne d'avancer? Où en sont les autres réformes fiscales, par exemple, impulsées par le gouvernement indien? Les fruits de la croissance sont-ils bien partagés? Comment se porte le capitalisme indien? S'est-il ouvert sur le monde? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Ranveer Nayar.
Bonjour.
Ranveer Nayar, vous êtes journaliste, vous dirigez Inde, un ensemble de journaux et de revues à caractère essentiellement économique qui se charge d'informer le monde francophone sur ce qui se passe en Inde. Oui. À qui s'adressent précisément ces journaux? Parce que le monde francophone, c'est vaste.
En fait, c'est pour nous le marché le plus intéressant, bien sûr, c'est la France et c'est les businessmen.
Le monde des affaires.
Ouais, voilà, le monde des affaires de France, mais aussi d'autres pays en Europe, comme Belgique ou Suisse.
Et donc, vous relatez ce qui se passe en Inde?
Exactement, oui. Tous les deux mois, avec un magazine Inde, mais aussi on a le magazine Business at India, qui est vraiment 100% sur le business entre Europe et l'Inde.
Alors, avec nous également dans ce studio, Vijay Fadke, bonjour.
Bonjour.
Et je devrais dire maître Vijay Fadke, puisque vous êtes avocat à Paris. Quel genre de dossier traitez-vous?
Je traite les dossiers indo-européens. Je suis un conseil pour les sociétés européennes qui travaillent avec l'Inde et aussi quelques sociétés des grands groupes gouvernementaux indiens qui travaillent en France pour acheter des sociétés ou pour les fusions et acquisitions.
Alors je termine ce tour de table par vous, Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Racine, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS auprès du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud et vous travaillez sur les transformations de l'Inde émergente, dites-vous. L'Inde, c'est un pays émergent, seulement émergent?
Oui, je pense que c'est un pays seulement émergent. La question avait été posée pour la Chine et on considère maintenant que la Chine est passée du statut d'émergent à quasiment statut d'émergé. Je pense que pour l'Inde, la définition de statut émergent est tout à fait ce qui convient dans la mesure où, par définition, l'émergence, c'est un processus. Et ce processus, pour l'Inde, il n'est pas encore achevé. Tant, je pense, en termes de puissance économique, hein, puisque très clairement l'Inde et la Chine ne jouent pas vraiment dans la même catégorie, que sur les conditions sociales.
Dont on parlera dans cette émission, émission au cours de laquelle nous allons diffuser des reportages, d'abord de Sébastien Farsi à New Delhi, mais aussi de Laure Broulard, qui est à Nairobi, et qui nous parlera de la présence économique indienne au Kenya et en général en Afrique de l'Est. Alors, on a entendu tout à l'heure l'annonce du Premier ministre Narendra Modi. C'était le 8 novembre dernier. Il décidait du retrait des coupures de 500 et 1000 roupies de la circulation, de la vie économique du pays. Jean-Luc Racine, pourquoi cette décision et est-ce qu'elle a donné des résultats?
Alors, le Premier ministre l'a dit lui-même, hein, ça a été mis en œuvre pour attaquer la corruption et ça a évidemment suscité un certain chaos, dont, assez curieusement, politiquement, l'impact a été moindre que prévu, puisque la victoire du parti Narendra Modi aux élections en Uttar Pradesh, le plus grand État indien, 200 millions d'habitants, au début de cette année, a confirmé que, finalement, cette démonétisation, qui a perturbé la vie de dizaines de millions d'Indiens, a été en quelque sorte digérée par la population. Reste l'impact économique.
L'impact économique, Vijay Fakhe, est-ce qu'il a été palpable, important?
J'étais là actuellement en Inde, à ce moment de démonétisation, et j'ai vu de très près ce que c'était un impact dans la population. Ma réponse est non. Il n'y a aucun impact dans mes connaissances que cette démonétisation était perturbante. Pas du tout.
Ça n'a pas été négatif.
C'était pas du tout négatif. Et là, comme Jean-Luc a dit, le résultat des élections en Uttar Pradesh a démontré.
Pourtant, les analystes économiques, Randvin Nayar, disent que ça a eu un impact sur le produit intérieur brut et que peut-être ça va réduire au final la croissance économique indienne de ces derniers mois.
Oui, exact. Je pense qu'il y a deux choses. L'impact politique, comme M. Racine et M. Fakhe ont expliqué, c'était un trait positif pour M. Modi, mais c'est plutôt à cause de la faiblesse de l'opposition. Ils n'ont pas vraiment arrivé à capitaliser sur ce moment. Mais l'impact économique, on le voit même aujourd'hui, presque 6 mois après, parce que si vous voyez les chiffres de la production industrielle de l'Inde, en avril 28, c'était le plus faible depuis 5 ans. C'est seulement à 1,3% pour cette période d'avril 28. Donc on voit que ça va encore durer, mais bien sûr, c'était pas aussi énorme qu'on croyait au début de ce processus.
Jean-Luc Racine, quel est le projet économique, je dis bien économique, de Narendra Modi? Quel est ce projet de réforme qu'il porte?
Alors, il faut rappeler la double image du Premier ministre très rapidement. D'un côté, c'est l'idéologue du nationalisme hindou, l'image de l'homme fort, du décideur qui centralise le pouvoir plus que ça n'était le cas depuis Indira Gandhi, d'une part. Et d'autre part, il y a l'image laissée par son passage comme chef du gouvernement du Gujarat, dont vous parliez tout à l'heure, où il a fait beaucoup pour le développement économique, beaucoup moins pour le développement social, du reste. Et c'est cette double image qui, finalement, lui a bénéficié, et il apparaît comme étant un réformateur de l'économie. Enfin, c'est là-dessus qu'il a fait campagne, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a gagné, au-delà des cercles habituels du nationalisme hindou. Donc, il est attendu là-dessus, avec, comme grande question, évidemment, créer des emplois. La clé du problème, c'est de créer des emplois, c'est donc de relancer l'industrialisation indienne, dont la part dans le produit national brut est relativement modeste. Et pour ça, donc, il y a toute une gamme d'initiatives, dont la plus connue à l'étranger, c'est l'appel à venir fabriquer en Inde.
Investir en Inde.
Investir et fabriquer. Le slogan, c'est « Make in India ». Venez investir pour fabriquer en Inde. Mais il y a les villes intelligentes, il y a la numérisation de l'Inde, l'économie digitale. Donc il y a toute une gamme de projets qui ont été lancés avec un certain sens de la communication. Il importera de voir 2 ans, 3 ans après ce que sera vraiment le résultat de cette multiplicité d'initiatives.
Alors l'un des projets de réforme, l'un des grands projets qu'il porte et qu'il a lancé au mois de septembre dernier, c'est celui de la TVA, essayer d'établir un taux unique dans tout le pays. Écoutez ce reportage signé Sébastien Farcy à New Delhi.
Il est plus compliqué d'envoyer une marchandise depuis Delhi jusqu'à un état régional voisin que de l'exporter en Europe. Ces mots d'un industriel résument bien la difficulté du transport commercial en Inde. Le pays est en effet divisé en 36 États et territoires et 17 différentes taxes peuvent être levées lors du passage de chaque frontière régionale. L'objectif de cette réforme est donc d'uniformiser les taux de la TVA sur les biens et services pour faciliter ce transit. Cela réjouit des industries lourdes comme celle de l'automobile dont les pièces détachées et véhicules voyagent dans tout le pays. Soumit Saone est le directeur de Renault en Inde.
Pour produire une voiture, nous devons faire venir les pièces détachées de Pune qui se trouve dans l'état du Maharashtra à l'ouest jusqu'à Chennai dans le Tamil Nadu au sud. Nous devons alors payer des tarifs douaniers, une nouvelle TVA et dans certains cas l'octroi local. Ces taxes devraient maintenant disparaître. Au moment de la vente, chaque état indien impose aussi différentes taxes, donc la voiture est vendue à différents tarifs. Avec la TVA unique, on aura un prix de vente unique.
Le secteur du textile, très important en Inde, devrait également bénéficier de l'accélération du transport de ses marchandises. Mais ses producteurs ont d'autres craintes que révèle Shishir Jaipura, directeur de l'entreprise de confection textile Gianni Filament.
Beaucoup d'exemptions fiscales ont été accordées aux industries du textile par certains États pour attirer les investisseurs. Cela ne sera plus applicable avec la TVA unique et l'impact sera donc négatif. Un nouveau mécanisme devra être adopté pour compenser cela.
L'autre avantage de cette TVA unique est que les fabricants ne paieront à présent que la taxe sur la valeur qu'ils ont eux-mêmes ajoutée et plus sur la valeur de tout le bien. Mais cette distinction ne peut être réalisée que grâce à des calculs comptables précis, ce que ne peuvent pas faire les petits producteurs qui ne sont même pas informatisés. Or, ces petits artisans représentent 94% de la main-d'œuvre en Inde. S'ils souffrent de cette réforme, c'est toute l'économie indienne qui en pâtit, assure Anand Kumar, professeur agrégé d'économie.
Les entreprises de grande taille vont devenir plus compétitives que les petites qui vont commencer à décliner. Or, c'est dans les petites que se trouve la plus grosse partie des emplois. Donc, si elles se portent mal, le chômage va augmenter, la demande va baisser et les grandes entreprises ne vont finalement pas bien se porter non plus.
Le gouvernement central doit maintenant arrêter le taux d'imposition de cette TVA qui devrait s'établir entre 15 et 18% sur tout le pays.
C'était un reportage signé Sébastien Farcy à New Delhi. Qu'est-ce qui vous inspire, Vijay Fadke? C'est une réforme importante parce qu'on a l'impression d'un pays, une Inde, complètement compartimenté, divisé, en fait, comme s'il y avait plusieurs pays.
Oui, vous avez, je suis d'accord avec l'analyse, mais pour moi, en tant d'être un avocat, que je pratique les choses dans la fiscalité, cette réforme était une des plus grandes réformes pour l'intégration de notre pays. Pour aller arrière un peu, l'Inde est un pays quasi fédéral. C'est-à-dire, comme États-Unis, on a des États, il a le droit de 29 États, il a le droit de faire des choses dans le fiscal, c'était les anciens taxes, d'octroi, local sales tax, etc. Et aussi le gouvernement fédéral à Delhi, il a le droit encore de faire des impôts différents. C'est pour ça qu'on avait des difficultés pour tous nos clients d'établir les usines dans un état et transférer les produits dans un autre et payer des multiples impôts inconnus, entre parenthèses. Mais pour ça, cette réforme, pour intégrer tous les états quasi indépendants, de laisser tomber ses droits et laisser le gouvernement indien, fédéral, d'intégrer le pays avec un, deux ou trois taux d'impôt. Pour moi, c'est une très grande réforme. Et n'oublie pas, il prendra beaucoup de temps de faire une réforme pareille. Parce que pour changer, ce n'est pas seulement la question de changer la constitution ou créer, c'est pour rassembler les pays et des politiciens et des pouvoirs des petites, des autres États.
Vous voulez dire, Vijay Fadke, que cette réforme, elle a été annoncée au mois de septembre, mais qu'elle n'est pas encore appliquée, que ce n'est pas encore entré en vigueur?
Non, cette réforme est commencée depuis des années. Mais l'annonce très récente, il a dit que cette réforme et le nouvel statut, il appliquera à partir du mois de juillet 2017. Ça, c'est là. Et je pense, il n'y a aucune raison pourquoi cette date n'est pas respectée.
C'est une réforme importante, Randvin Nayar?
Oui, bien sûr, c'est peut-être la plus importante réforme depuis l'indépendance pour le monde économique en Inde. Et comme vous avez expliqué, que ça rassemblait les pays et c'était une réforme
ça
qui
l'intègre,
était...
Ça l'intègre,
oui, bien sûr. Tout le pays et ça fait à peu près le même type de marché qu'on a ici en Europe. L'Inde est vraiment la taille de l'Europe en termes de superficie.
Mais il y a beaucoup plus de monde.
Oui, beaucoup plus de monde, 3 fois plus de monde. Mais c'est très important et, bon, M. Farke est le plus optimiste que moi, que juillet 1er sera une date qui sera respectée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Aujourd'hui, ils sont en train de fixer les taxes exactement par service et par produit. Ils ont arrivé que à faire ça pour 80% des produits et services. Il nous reste encore 20%. Et on est à peine 6 semaines de 1er juillet. Et après, il faut être capable que chaque comptable et chaque producteur, les petits producteurs, soient vraiment informés et ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer cette réforme dans leur business. Ça, c'est un processus qui va prendre facilement 6 mois, sinon plus.
Parce que, Jean-Luc Razi, ce que décrivait Sébastien Farcy dans son reportage, c'est un pays où, finalement, l'informatique n'a pas pénétré partout. Puisqu'il nous disait que les petites entreprises n'avaient pas d'ordinateur, que c'était, en quelque sorte, encore une économie très manuelle, très scripturale.
Il y a deux choses distinctes. Il y a le taux d'informatisation, qui n'est pas nécessairement de 100%, particulièrement pour les toutes petites entreprises. Mais le cœur du problème, je pense, c'est que ça a touché au-delà de la technicité de la mesure, qui est effectivement, ça, c'est relevé un défi.
C'est un casse-tête.
C'est un casse-tête. Mais l'avancée qui a été faite récemment, alors que ça a été souligné, ce projet de TVA à l'indienne, ça a été mis en place par le gouvernement précédent, le parti du Congrès, Manmohan Singh, Premier ministre. Mais c'est un très long processus parce qu'il a fallu convaincre les divers États de l'Union de céder une part de leur pouvoir décisionnaire en matière de taxes, d'octroi, et d'une certaine façon, ce que le gouvernement actuel a réussi, c'est ça, c'est à redéfinir le cadre fédéral. Reste après la technicité l'opération qui a été soulignée et qui, moi aussi, je suis un peu sceptique sur le 1er juillet, mais à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est que maintenant, les derniers arbitrages en termes de tel produit taxé tant à travers tout le pays, bon, tout ça va prendre un certain temps, mais c'est effectivement une réforme décisive pour la fluidité des opérations commerciales et industrielles dans le pays.
Alors, il y a un mot que vous utilisez tous les trois pour parler des impôts, c'est l'octroi. En France, en Europe, c'est considéré comme un souvenir de la fiscalité féodale ou monarchique. Qu'est-ce que ça nous dit de l'économie indienne, Randvin Nayar?
En fait, c'est les taxes qui sont appliquées par chaque ville. Donc, chaque ville a ses propres octrois. Donc, même si dans l'état de Maharashtra, dans l'ouest, si on bouge de Bombay à Pune, qui a même pas 100 kilomètres, on doit payer l'octroi pour chaque entrée dans 3 villes qu'on va dépasser. Donc, c'est surtout un casse-tête pour les transporteurs et pour les marchandises qui sont périmables. Parce que ça, vraiment, ça gaspille beaucoup de temps pour tout ce qui est transport à l'interne.
On parle souvent de la bureaucratie indienne, de l'administration indienne, qui est d'une grande lourdeur. Jean-Luc Racine, c'est une légende ou c'est vrai?
Non, c'est pas vraiment une légende. Bon, les Français s'y connaissent aussi en termes de bureaucratie, donc remettons les choses à leur place. Mais non, c'est pas une légende, d'autant plus que c'est un des points de la définition de la facilité à faire des affaires, selon les critères de la Banque mondiale, et c'est un point qui est régulièrement soulevé par les investisseurs étrangers, prêts à venir en Inde pour des raisons évidentes. Il y a un marché, il y a des perspectives, il y a des talents, mais cette question de la difficulté quotidienne à faire des affaires reste un point qui est un peu dans l'esprit de nombre d'investisseurs. Il y a bien sûr des contre-histoires qui montrent qu'il est tout à fait possible d'investir avec succès.
On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, puisque pour l'instant nous nous arrêtons quelques minutes pour un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlons de l'économie indienne avec trois invités, le professeur Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, l'avocat Vijay Fadke et le journaliste Ranvin Nayar. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué le projet économique de Narendra Modi, sa volonté d'industrialiser le pays plus encore qu'il ne l'est. On a aussi parlé de la grande réforme impulsée par Narendra Modi, le projet de TVA unique en Inde. Il y a un autre problème auquel Narendra Modi fait face, c'est celui du chômage. La croissance indienne ne crée pas assez d'emplois pour absorber tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Et surtout, la plupart de ces jeunes ne sont pas assez formés pour travailler dans les secteurs en pointe. Le gouvernement a ainsi lancé, il y a 2 ans, un grand plan de formation professionnelle pour essayer de faire face à ce problème de chômage et de sous-emploi. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Farcy à New Delhi.
Mamta a 25 ans, 2 enfants, mais n'a jamais travaillé en dehors de sa maison. Elle a dû arrêter l'école à 14 ans et s'est ensuite occupée de son foyer. Aujourd'hui, habillée d'une belle tunique rose, une marque hindoue bleue sur le front, elle s'applique à faire des lignes de couture grâce à une machine. Elle vient de commencer une formation d'environ 2 mois.
Tout cela est nouveau pour moi. Et au début, j'avais très peur. Je pensais que je n'arriverais pas à contrôler la vitesse de la machine, mais grâce à l'aide des formateurs, j'y arrive. Quand on veut, on peut. Et bientôt, je vais postuler dans les usines locales.
À travers ces cours de 1 à 3 mois, la société ILFS forme plus de 3000 personnes par an dans ce centre de New Delhi. L'objectif est de combler un manque d'éducation. Moins d'un Indien sur 2 va jusqu'en classe de terminale et ces jeunes peuvent donc difficilement travailler dans les secteurs en croissance comme la grande distribution, les centres d'appel ou l'hôtellerie. ILFS les forme donc dans ces domaines selon des besoins identifiés avec des entreprises et insiste aussi sur les compétences non techniques comme l'explique Ashima Kochar, la responsable pédagogique.
When they go to the workplace.
Quand ils arrivent au travail, il y a de la pression professionnelle. Donc nous devons les familiariser avec ces situations et leur expliquer comment y répondre. De même pour la gestion du temps. Beaucoup viennent d'un monde où le rythme et le style de vie sont très différents. Et ils ne savent pas comment établir des priorités entre les tâches. Donc nous leur enseignons des techniques pour cela.
La plupart de ces cours sont financés par l'État qui a lancé il y a 2 ans un grand plan de formation professionnelle, ce qui a offert un apprentissage à plus de 5 millions de personnes. Cependant, ces cours express ne pourront suffire selon Sabina Devan, directrice du centre d'études Just Jobs Network.
Nous devons arrêter de penser que la formation professionnelle va compenser les années de mauvaise scolarité. Nous devons avant tout améliorer le niveau d'éducation de base. Et il faut également introduire les valeurs professionnelles et d'employabilité dès l'école secondaire.
L'Inde compte la jeunesse la plus nombreuse du monde. Cela représente un atout démographique si ses actifs sont employables, mais un fardeau qui empêchera le développement du pays, dans le cas contraire.
Reportage signé Sébastien Farcy à New Delhi. Je vous voyais prendre des notes, Jean-Luc Racine. Vous avez appris des choses ?
Oui, sur cette stratégie de formation professionnelle, c'est évidemment décisif, mais je crois que ce qui est décisif, c'est ce qu'a dit la dernière intervenante. La formation professionnelle à 25 ans pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, c'est bien, mais le cœur du problème au niveau national, c'est l'insuffisance de la formation école primaire, enseignement secondaire. Et cette question-là, évidemment, elle prendra du temps à être résolue. Il faut voir aussi ce que sont les politiques des gouvernements. Et ça, c'est l'analyse du budget qui le montre. Quelle est la part des dépenses publiques qui est dirigée en faveur de l'école primaire ? Il y a en Inde des centres universitaires ou des grandes écoles de réputation absolument internationale. Absolument international, mais ça a été dit, moins de la moitié de la jeunesse indienne a le niveau du bac.
Oui, alors il y a aussi un problème culturel que relatait une de ces formatrices, qui est qu'il n'y a pas la même notion du temps pour les gens qui n'ont pas reçu de formation et pour ceux qui sont dans le monde du travail, en une Nayar, c'est un problème important, ça.
Oui, exactement. En fait, la durée de cette formation, ce n'est pas du tout assez. Et c'est un monde que je connais assez parce qu'on travaille depuis longtemps sur observer ce monde. On a besoin de former à peu près 600 millions de jeunes d'ici 2022. Pour qu'ils trouvent leurs emplois. Même dans l'industrie ou comme le business de technologie, où l'un des supposés est très fort, les sociétés comme Infosys ou TCS qui prennent les gens, ils passent 6 mois à les former qu'ils puissent vraiment travailler bien. Oui. Donc, on peut imaginer les gens qui n'ont jamais allé à l'école ou dans le collège, quel est leur état. Donc, la durée de cette formation, c'est pas assez parce que le plus souvent, c'est entre 4 semaines. Et maximum, c'est 6 mois. Dans les cas exceptionnels, c'est 1 an. Et vraiment, très rare, c'est 3 ans.
Mais 600 millions de personnes en 5 ans à former, c'est un défi considérable.
C'est pas possible. C'est pas possible du tout.
Vijay Fadke, vous en pensez quoi, vous ?
Je suis d'accord avec Jean-Luc pour la priorité des politiciens, pour la politique indienne, c'est l'éducation et bien sûr la santé. Et cette formation professionnelle, à mon avis, c'est pas directement lié avec la politique générale, mais c'est lié avec l'autre politique de Make in India et les produits en Inde. Parce qu'ils ont besoin de cette formation professionnelle très rapidement pour être disponible pour les sociétés qu'ils voulaient produire. Et c'est un incentive pour les investisseurs d'être supporté avec les...
Avec une main-d'œuvre compétente et qualifiée.
Exactement. Parce qu'à mon avis, mon observation, comme un professionnel, l'Inde, bien sûr, les sociétés comme Infosys et des autres, il a des gens, des milliers de gens qui travaillent, mais on n'a pas des petits ingénieurs, des techniciens qui peuvent réparer un petit ordinateur ou a mis une ligne téléphonique ou une ampoule. C'est ça que nous avons besoin. C'est pas nous, c'est pas l'Inde seulement. C'est pour l'objectif de Make in India et produit en Inde. Monsieur Modi, pour ça, il a insisté, je pense, et bien fait, et donné cette priorité de skills, c'est-à-dire les formations professionnelles. Ça, c'est l'urgence aujourd'hui. S'il prend 5 ans, je pense que c'est rien. Parce qu'en Inde, vous avez besoin de patience. À mon avis, patience, c'est le plus grand investissement. Pas seulement l'argent. Vous avez besoin de patience. Maintenant, si c'est 5 ans ou 4 ans, je n'ai pas peur de ça.
Mais 600 millions de personnes à former, Jean-Luc Racine, ça veut dire aussi qu'il y a un sous-emploi et un chômage massif dans le pays.
Oui, on ne peut pas faire confiance aux chiffres officiels du chômage, hein, qui sont 8 à 9%, mais ça n'a qu'une validité pour ce qu'on appelle le secteur formel. Or, le secteur informel indien, si on inclut les paysans, les agriculteurs,
on va en parler dans 2 minutes.
C'est 90% de la population. Et si on tient compte de l'atout démographique indien qui a été souvent mis en avant, disant nous avons la plus grande jeunesse du monde, la tranche d'âge apte à travailler la plus grande du monde, on va donc l'emporter sur la Chine. On sait que les Chinois ont été contraints d'abandonner l'enfant unique parce que ça posait des problèmes démographiques sur le long terme. La question, c'est que il y a chaque année, si je ne me trompe, 12 millions d'emplois à créer. Donc la tâche est immense. On retombe sur la question centrale, formation scolaire et universitaire, plus formation professionnelle.
Le chômage, le sous-emploi, c'est un facteur de grande pauvreté en Inde ?
Oui, absolument, parce que ça touche vraiment les gens les plus faibles dans le monde économique en Inde, parce que si vous voyez les zones rurales, où là où habite 65% de l'Inde aujourd'hui, l'emploi se trouve pour 3 mois, 4 mois. Et même dans les villes, vous voyez les gens qui travaillent chez vous.
Les employés de maison, oui.
Oui, voilà, les femmes de ménage, ce n'est pas compté dans l'économie formelle. Et la construction. Donc, à part l'agriculture, il y a aussi d'autres secteurs d'économie qui sont larges, qui emploient des millions de gens, mais ce n'est pas l'emploi pour toute l'année, ce n'est pas l'emploi protégé, et ce n'est pas l'emploi bien payé. Donc, il y a vraiment ce challenge d'intégrer tout ce monde dans l'économie formelle et qu'on a l'emploi et la protection.
Vijay Phadke, vous, dans vos proches en Inde, dans votre famille, vous faites face à ces problèmes de chômage, de sous-emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui est familier à tout le monde en Inde, ou est-ce qu'il y a plusieurs Indes, avec une Inde favorisée de gens formés ayant accès à l'éducation, et puis une autre, je veux parler des castes, par exemple.
Pour focaliser sur l'emploi, j'ai aussi une réponse, parce que à la maison, par exemple, vous avez des chauffeurs, vous avez des domestiques qui travaillent. Mais je vais vous dire, j'ai remarqué, parce que j'ai vu en Inde aussi qu'en France, et il est aujourd'hui presque impossible de trouver des domestiques et des chauffeurs facilement à la maison, comme on a trouvé à Nagpur, par exemple, que je viens de Nagpur, de plus belle ville, et c'est impossible de trouver, et si vous trouvez, les gens ne veulent pas continuer de travailler comme des domestiques, ils veulent absolument de formation professionnelle, ils voulaient parler en anglais, ils voulaient comprendre comment démarrer un ordinateur, par exemple. Okay. C'est des skills, c'est ça que je vois. Mais si les chiffres donné par les économistes ou des fonctionnaires, si c'est vrai au fond, il restera toujours un doute. Mais à la fin, je trouve une souris. Partout en Inde, c'est la souris qui compte, et vous pouvez déchiffrer cette souris, comme vous voulez.
Le sourire, vous...
Sourire.
Le sourire, pas le sourire.
Excusez-moi.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie de l'Inde avec trois invités. L'avocat Vijay Phadke qui avait la parole à l'instant. Jean-Luc Racine, économiste, et le journaliste Randhvi Nayar. Jean-Luc Racine, vous évoquiez tout à l'heure l'agriculture, le secteur rural indien. C'est un secteur, comme le rappelait Randhvi Nayar, qui emploie 65% de la population. Mais est-ce que c'est un secteur qui arrive à nourrir le pays ?
En gros, nourrir le pays, oui, il y a eu des grands progrès depuis ce qu'on a appelé la révolution verte dans les années 70. Bien sûr, l'Inde peut importer tel ou tel produit alimentaire, mais enfin, l'essentiel
est
aujourd'hui assuré. La vraie question, c'est ce qu'on peut appeler d'une certaine façon, je dirais pas la crise de l'agriculture, mais au moins une crise de l'agriculture, qui est liée, d'une part, et ça a été dit, à l'incapacité de l'agriculture à nourrir tous les ruraux, sans que l'industrie soit là pour offrir des emplois, d'une part. D'autre part, à un relatif épuisement d'un certain modèle d'agriculture semi-intensive ou commerciale, et donc l'Inde est marquée par l'ampleur des suicides paysans fait partie malheureusement de l'actualité.
8 000 par an, ai-je lu ?
Oh, beaucoup plus que ça, qui sont des petits ou des moyens paysans absolument surendettés, qui ont par exemple abandonné des cultures vivrières pour se lancer dans le coton irrigué selon le prix du coton en Inde ou ailleurs. Donc là, il y a un vrai problème. Avec aussi des inégalités majeures dans le monde rural, même si il y a eu en Inde une réforme agraire, plus ou moins forte selon les États, mais il y a eu une réforme agraire, reste que pour les propriétaires fonciers, ils ne paient quasiment pas d'impôts. Ça fait partie de ce qu'était la base électorale lorsque le nouveau système politique indien s'est mis en place après l'indépendance. Donc l'agriculture est un problème, avec une certaine dimension écologique aussi, environnementale, qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Les nappes phréatiques baissent en raison de certaines zones où l'irrigation a été excessive, non taxée elle aussi pour l'électricité. Donc il y a probablement une politique agricole et rurale à revoir, mais tout ça n'est qu'un élément dans un pulse où finalement il faut agir sur tous les fronts, comme on l'a vu au fil de cette émission.
Alors je le disais au début de l'émission, la semaine prochaine un événement original a lieu à Ahmedabad, la principale ville de l'état du Gujarat, au nord-ouest de l'Inde. Cet événement, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement. Les liens entre l'Inde et l'Afrique sont importants. L'un des pays qui est en première ligne de cette relation, c'est le Kenya. Certains experts affirment même que les hommes d'affaires indiens tiennent 70% de l'économie kényane. À Nairobi, il y a même des quartiers purement indiens. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laure Broulard à Nairobi.
Nairobi a son Little India, Diamond Plaza, un vaste centre commercial aux allées étroites où les fast-foods indiens côtoient les tailleurs et les salons de coiffure. Raja Shudasana a rejoint son oncle au Kenya en 1994 dans l'espoir de trouver un travail. Aujourd'hui, il fait fièrement visiter son propre salon.
Mon salon s'appelle Hair Razor. Je l'ai acheté en 2007. Je me suis construit tout seul, vous voyez. Et puis j'ai ouvert un deuxième salon à Diamond Plaza.
Raja espère ouvrir une troisième boutique, car comme l'explique Priti Galeya, tailleuse, Diamond Plaza est en pleine croissance depuis son ouverture au début des années 90.
À l'origine, quand Diamond Plaza a été ouvert, je me souviens que nous étions environ 82 magasins. Aujourd'hui, nous sommes plus de 350 boutiquiers. C'est comme une micro-Inde ici, tout le monde se connaît et si l'un des commerçants a un problème, il reçoit l'aide de tous les autres.
À quelques pâtés de maison, Mukesh Desai ne veut pas entendre parler des petites boutiques de Diamond Plaza. Il dirige la United Business Association qui regroupe plus de 500 entreprises au Kenya. Et il souligne plutôt la nouvelle vague d'investissement indien dans des secteurs de pointe.
Beaucoup d'entreprises ont été créées par des Indiens ces trois dernières années. Ils misent particulièrement sur le secteur pharmaceutique et médical. Ils créent des cliniques. Il y a également le secteur des technologies de l'information. Et puis il y a des entreprises indiennes qui s'installent et investissent comme Reliance ou Tata.
Selon l'ambassade indienne à Nairobi, 44 entreprises indiennes ont des filiales au Kenya et les investissements indiens dans le pays s'élèvent à environ 2,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'Inde est le second partenaire commercial du Kenya derrière la Chine. Son principal concurrent sur le marché est-africain, explique Alikan Sachu, analyste économique kenyan.
C'est ce que j'appelle une compétition par niche. Ils n'essaient pas de concurrencer la Chine de manière frontale. Ils se disent plutôt, voici un secteur où nous avons une marge de manœuvre, allons-y. Et lorsqu'ils discutent avec le gouvernement kenyan, ils ne sortent pas le carnet de chèques comme les Chinois, mais plutôt en cherchant des scénarios qui conviennent aux deux parties. Dans le cadre de réelles opportunités commerciales.
Les gouvernements indiens et kényans se sont cependant rapprochés récemment avec la visite du Premier ministre Narendra Modi au Kenya en juillet dernier, puis celle d'Uhuru Kenyatta à New Delhi en janvier, le signe de nouvelles opportunités pour le monde des affaires indiens.
Un reportage signé Laure Broulard à Nairobi. C'est important ce déploiement en Afrique. Vichai Fadke, vous aimeriez voir le même genre de déploiement en Europe, en France?
Oui, bien sûr. Les relations entre l'Afrique et l'Inde, c'est un peu retard, mais c'est déjà commencé à nouveau. Mais les Indiens, comme vous avez entendu dans le reportage, étaient déjà là depuis des années et des siècles peut-être. Et aujourd'hui, on a de concurrence avec Chine dans l'Est Afrique. Et pour ça, M. Modi a commencé de pousser les politiques vers l'Afrique. Et je pense que c'est un bon moment de faire ça. Et j'espère qu'il continuera d'investir et encourager les sociétés indien et avec la et puis de comment dites les subventions par la données par
les
le gouvernement
oui.
Données par le gouvernement indien, ça c'est commencé aussi, mais imaginez un pays comme l'Inde à donner les milliards de dollars équivalents comme les subventions en Afrique, et ça je pense c'est un bon politique et il donnera les résultats très prochainement.
Jean-Luc Racine, c'est quand même paradoxal, ce gouvernement nationaliste de Narendra Modi a pour leitmotiv fabriqué en Inde, et puis il subventionnerait des entreprises indiennes qui iraient produire ailleurs.
Je pense, mais M. Falqué est plus compétent que moi, il s'agit moins de subventions que de lignes de crédit. Et c'est évidemment pas tout à fait la même chose. L'Inde a commencé à avoir une politique d'aide au développement, mais plutôt centré sur les petits voisins immédiats, le Népal, le Bhoutan, etc. Mais il faut savoir aussi que l'Inde a maintenant une présence en Afrique qui est une présence généraliste, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qu'étaient les bastions traditionnels des commerçants indiens établis en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Quand les Français ont fait leur opération anti-djihad au Mali. L'Inde a approuvé l'opération parce que les soldats français ont sécurisé des intérêts économiques indiens au Mali. Avec le Sénégal, il y a une coopération intense en matière de pratiques agricoles, machinerie, irrigation, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, il y a là un axe général qui va de pair avec la philosophie économique du libéralisme. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des appels à venir investir en Inde. Ceci étant, le Kenya est un cas intéressant parce que le Kenya et son port de Mombasa, c'est le point focal pour l'Afrique de la fameuse initiative chinoise...
La route de la soie.
De la route de la soie.
Voilà, ouais.
Donc, on retrouve une manière de compétition, mais ça a été dit. Il ne s'agit pas d'avoir une compétition frontale avec la Chine. Les Indiens ne se comportent pas de la même façon que les Chinois, quand ils sont à l'étranger en général et en Afrique en particulier. Et ça, c'est assez important. Mais évidemment, il y a aussi compétition, mais à armes... un peu inégal, mais il est vrai que il y a une voie relativement étroite. Il faut être actif, il faut être puissant, il ne faut pas être trop puissant. Il faut quand même se rappeler que les Indiens ont été expulsés d'Ouganda par Amin Dada il y a plusieurs décennies. Ils ont été expulsés de la Birmanie il y a très longtemps parce que, précisément, le dynamisme des Indiens à l'étranger leur faisait mettre la main sur une part notable des activités économiques de ces pays. Donc c'est pour ça que, comme vous l'avez souligné, le fait que la Banque africaine de développement tienne sa prochaine réunion à New Delhi, c'est tout à fait significatif.
Ahmedabad.
Dans l'ancien état de Narendra Modi, c'est significatif, comme est significatif le forum Inde-Afrique que l'Inde a mis sur pied depuis plusieurs années, en copiant là aussi d'une certaine façon le modèle chinois. Mais au dernier forum qui s'est tenu à New Delhi, les 54 pays africains étaient représentés.
Qu'est-ce que ça dit de l'insertion, Ranveer Nayar, de l'Inde dans les échanges commerciaux mondiaux? Est-ce que c'est un pays qui est de plus en plus présent dans ces échanges?
Oui, bien sûr. On voit que le taux de l'Inde dans le commerce mondial, ça augmente. C'est bon. C'est toujours pas du tout comparable à la Chine. On est toujours à 2,5 ou 3%. Comparé à plus que 16% pour Chine. Mais il y a aussi le facteur que la diaspora indienne est très importante et s'est dispersée vraiment dans plusieurs pays au monde, de Canada et des États-Unis, mais aussi au Fidji, dans le Pacifique. Donc, c'est aujourd'hui, je pense, l'Inde est bien prêt à utiliser cette diaspora pour étendre ses intérêts et les échanges commerciaux. Donc, c'est... Je suis d'accord avec vous sur ce point.
Alors, Vijay Falke, vous, comme Ranveer Nayar, vous êtes des membres de cette diaspora indienne. Est-ce que vous contribuez, vous, par votre action, à l'implantation de l'Inde dans l'économie mondiale, en l'occurrence en France et en Europe? Est-ce que votre action contribue à enrichir, à développer l'Inde?
Bien sûr, je ne sais pas si c'est une contribution directe, mais pour vivre dans mon pays adoptif en France, et aider, bien sûr, la diaspora indienne, à côté, qui c'est minuscule, mais aussi aider les sociétés françaises et les autres Européens de comment découvrir l'Inde et faire des choses en Inde, professionnellement, que j'ai fait depuis des années. Et aussi, à part de profession, j'ai fait beaucoup de choses, comme nous disons, les charités, et pour mobiliser les Français de faire des choses humanitaires en Inde. Je peux pas citer les noms, mais depuis des années, j'ai travaillé en façon pour un grand chanteur français, très connu, qui a fait beaucoup de choses depuis des années en Inde, humanitaires. Des écoles et des médecines et des choses comme ça. Ça aussi rentre dans notre contribution de diaspora indienne de faire quelque chose pour les deux pays.
Mais Jean-Luc Racine, l'Inde, est-ce que c'est un pays qui a besoin d'une action humanitaire venue de l'extérieur?
L'action humanitaire venue de l'extérieur, d'un côté, elle a toujours existé.
C'est quand même une grande puissance.
Oui, c'est une grande puissance, mais c'est une grande puissance qui a certaines faiblesses, particulièrement en matière d'accès du maximum de la population aux questions de santé. Donc il y a toujours une place de l'humanitaire. Ce qu'on observe aujourd'hui avec ce gouvernement nationaliste, c'est en même temps une certaine méfiance vis-à-vis des ONG internationales. Ça avait commencé d'ailleurs un peu sous le gouvernement précédent, mais là, on sent bien qu'il y a une certaine méfiance, parce que évidemment, les capitaux des grandes organisations humanitaires sont des capitaux étrangers. Et puis, il y a, je pense, une manière de fierté nationale qui renvoie d'une certaine façon à la question que vous posiez. Est-ce que l'Inde a encore besoin d'action humanitaire, elle-même pouvant fournir de l'action humanitaire à certains de ses voisins?
Eh bien, c'est sur ce mot que se termine cette émission. Je vous remercie tous les trois, Jean-Luc Racine, Ranveer Nayar, Vijay Fadke, d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission, que vous pouvez retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.